Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Gabriel Sec et Jérôme Crapati. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du rugby avec la première journée de la Champions Cup et du football avec la 13e journée de Ligue 1. Nous commenterons ensuite les autres faits marquants de l'actualité sportive de la semaine et nous terminerons par les coups de cœur de nos invités. Jérôme Crapati, on va commencer avec vous sur le rugby. C'est la première journée de la Champions Cup ce week-end. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les clubs français se sont bien comportés. Ils étaient 8 engagés, 6 victoires, 2 défaites.
Oui, une très belle première journée avec notamment Toulouse qui va essayer donc de défendre son 7e titre puisqu'ils sont 6 fois champions d'Europe et ont gagné 23 fois le championnat de France. Donc une grosse équipe qui a rencontré donc les Irlandais du Ulster. Et là, ça a été une véritable démonstration puisque Toulouse l'a emporté 61-21 avec 9 essais, des internationaux en forme, un jeu complet avec une alternance sur le jeu donc de mouvement, mais aussi un jeu assez rugueux. Un Antoine Dupont encore très 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 fort avec un groupe qui a été très très en cohésion, et ça a permis vraiment de dynamiser et d'avoir de très beaux essais. Les cadres de Toulouse sont revenus. Ils sont revenus pour vraiment prendre au sérieux cette Champions Cup, en plus donc des matchs du top 14. Et on voit bien que finalement Toulouse est au rendez-vous. Et on a assisté vraiment à un gros gros match.
Donc vous l'avez dit, 9 essais, dont un de Romain Ntamack qui revient après sa blessure, 2 de Ange Capozzo et 2 de Meafou. Donc un jeu vraiment très complet avec un Antoine Dupont, vous l'avez dit aussi, très inspiré. On voit un coup de pied magnifique pour l'essai de Capozzo. La grosse machine est déjà en route du côté de Toulouse.
Oui, des séquences offensives de qualité, des contre-rucks efficaces, des internationaux aussi bien français que italiens en pleine forme. Et on voit bien que Toulouse a dynamisé le jeu. Ulster a très vite été débordé. Et là, on a assisté vraiment à une prise de responsabilité en prenant chaque match de Coupe d'Europe aussi sérieux, puisque la poule est très relevée avec les Sharks, Exeter, l'Union Bègles Bordeaux, Leicester également, et bien sûr Ulster. Et donc là, on voit bien que Toulouse veut vraiment marquer le coup. Et sur les autres journées, on sent bien qu'ils marquent leur empreinte avec tous les titres déjà qu'ils ont gagnés.
Alors vous l'avez dit, dans cette poule A qui est effectivement très relevée, on retrouve aussi l'Union Bordeaux Bègles. Qui a battu Leicester 42-28 avec 6 essais dont 2 de Bialbiaré. Donc là aussi des internationaux en forme du côté de Bordeaux-Bègles.
Oui, Bègles-Bordeaux qui fait dans le top 14 figure également de concurrent à Toulouse avec un très bon début de saison. Et puis Bialbiaré qui, je le rappelle, avait été chronométré à 34,9 km/h lors des matchs avec l'équipe de France.
Sur l'essai contre les All Blacks.
C'est ça, et donc qui continue à démontrer ses prouesses de vélocité et vraiment et en pleine forme. Et surtout un groupe de Bègles-Bordeaux qui est cohérent avec Mathieu Jalibert, De Porter, Mouefana, enfin toutes les lignes arrières et notamment le pack d'avant qui font preuve d'un rugby de grande qualité puisqu'ils ont gagné donc 42-28. Et c'est vrai que les équipes de Coupe d'Europe, il faut se dire que le niveau est très relevé, mais ces deux clubs français sont vraiment pour le moment au-dessus du lot et on espère qu'elles vont continuer à gagner, parce que on le dit et on le redit, le top 14 fait partie des meilleurs championnats au niveau mondial.
C'est peut-être même le meilleur championnat mondial.
Oui.
Devant le championnat de l'hémisphère sud. Si on continue notre tour d'horizon des clubs français, Clermont qui a battu Trévise 28-0.
Oui, avec Christophe Furios de plus en plus exigeant, quatre magnifiques essais de Massa et de Pessigliato, avec donc un Clermont qui déroule, qui est bien également en championnat puisqu'ils seront troisième, et Trévise, club italien, qui n'a pas pu tenir face par rapport à Clermont qui a été assez imposant au niveau de son paquet d'avant.
Alors Clermont est dans la poule B, tout comme La Rochelle, qui s'est imposée aussi à Bath en Angleterre 24-20.
Oui, alors La Rochelle est effectivement avec trois magnifiques essais. Aya West qui a marqué 15 points. Le pack de La Rochelle, c'est plus de 930 kilos. Je rappelle qu'ils avaient perdu la semaine dernière une contre-performance contre Vannes et voulaient vraiment se rattraper. Donc ils gagnent à la fin 24-20. Et même Finn Russell, qui fait partie donc des effectifs de Basse, qui a marqué 10 points, n'a pas pu s'opposer à un La Rochelle vraiment en bonne forme et assez complet dans son rugby.
Alors, si on continue encore avec le Stade français, qui est, on va dire, la mauvaise note de ce week-end, une des mauvaises notes de ce week-end, puisque c'est une défaite au Munster 33-7.
Oui, et le Stade français, ils sont en difficulté depuis le début de saison, malgré un bon recrutement. Ils n'arrivent pas à trouver la cohésion, ils n'arrivent pas à trouver, à mettre en place leur projet de jeu. Et ils vont de défaite en défaite. Ils sont dans le bas du classement au niveau du top 14. Il va falloir vraiment qu'ils montrent une autre image pour les prochains matchs, puisqu'ils ont pris plus de 30 points.
Une crise de confiance dans ce groupe, hein, ça se sent, ça transpire de l'extérieur, quoi. Vraiment, oui. Même en championnat, oui. C'est pareil. Oui. C'est un groupe qui pourtant semble être un groupe de qualité, hein,
oui.
Mais malgré tout, la mayonnaise n'arrive pas à prendre.
Oui, et une vraie difficulté par rapport au fait qu'ils ne sont pas en confiance, et ce qui démontre bien que même si on a un recrutement de qualité, le rugby, c'est faire jouer des individualités ensemble autour d'un projet de jeu au niveau collectif. Et là, on voit bien que le Stade français balbutie son rugby en début de saison.
On va continuer dans les mauvaises notes, puisque c'est les deux seules défaites de ces huit rencontres. Castres, qui s'est incliné contre Northampton, 38-8.
Oui, 5 essais de Northampton. Northampton, c'est très costaud. Castres, pourtant, fait quand même un bon championnat, mais s'est incliné. Alors, il faut savoir, Olivier, vous savez que les matchs à l'extérieur sont jamais évidents, notamment lorsqu'on se déplace au niveau donc chez les Anglais. Ils sont quand même assez rugueux. Donc voilà, on espère que sur d'autres matchs retour, Castres et le Stade français pourront se rattraper.
Oui, Northampton n'est pas non plus une petite équipe. Hein. C'est quand même pas les perdreaux de l'année, si j'ose dire.
Oui, c'est une équipe qui a déjà démontré de très bons résultats. Et voilà, c'est quand même assez impressionnant comme niveau de jeu.
Allez, on reprend le fil des victoires françaises avec Toulon, qui s'est imposé en Afrique du Sud chez les Stormers, 24-14.
Ah oui, un match spectaculaire, un plaquage destructeur de Gabin Villière. Et donc, à la quatrième minute, il va marquer. Isa Facundo marque également. Serein marque 14 points. Et finalement, Toulon va gagner en Afrique du Sud. Donc, va battre les Stormers 24-14. Alors Toulon, ils sont en progrès, ils font des bons matchs et c'est une équipe à surveiller, notamment au niveau du top 14. Et je pense qu'en Coupe d'Europe, avec une victoire à l'extérieur, ils peuvent faire un résultat intéressant.
C'est ça, ça va beaucoup mieux du côté de Toulon depuis quelques semaines. Hein. On sent que voilà, le début de championnat a été compliqué, mais ça, la dynamique est bonne.
Oui, et là encore, c'est le top 14, c'est aussi l'alchimie entre de nombreux recrutements. Et là aussi, il faut que Pierre Mignoni arrive à faire prendre un petit peu la mayonnaise, parce que ce sont de très bons joueurs qui arrivent un petit peu de partout, mais il faut qu'ils adhèrent au projet. Et là, on s'est rendu compte que c'était un match à suspense, et bien notamment leur demi d'ouverture Bigard, le demi d'ouverture gallois, a fait un très très bon match avec la charnière, avec Jean-Baptiste Serein. Et on se rend bien compte que quand les charnières fonctionnent bien, comme par exemple Antoine Dupont et vous en parliez, Romain Tamac, eh bien, en général, l'équipe gagne, puisque la charnière, c'est quand même la colonne vertébrale qui fait donc développer la partie offensive.
Voilà. Et puis, les derniers dont on n'a pas encore parlé, c'est le Racing 92 qui s'est imposé contre les Harlequins, 23-12.
Oui, trois beaux essais du Racing qui doit se reprendre, qui fait un début de saison un peu poussif, mais voilà, qui essaie vraiment d'être le plus rigoureux possible. Et ils ont battu quand même l'Harlequins, donc c'est une belle équipe. Voilà, en espérant que voilà, sur les matchs à l'extérieur, le Racing va pouvoir confirmer.
Alors, on va rappeler le fonctionnement de cette Champions Cup. Quatre poules donc de six équipes, les quatre premiers qualifiés pour les huitièmes de finale qui auront lieu au printemps.
Oui. Donc une belle Champions Cup avec donc une alternance. Donc il reste encore deux journées. Ensuite, le top 14 va reprendre pour la journée donc du 22 décembre. Et enfin, on basculera sur la partie donc du tournoi destination.
Les internationaux.
Le premier match, ça sera France-Galles le 31 janvier. Donc après ces trois victoires au niveau de l'équipe de France, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de l'Argentine, les internationaux rejoignent donc le top 14, puis la Coupe d'Europe, et ensuite vont continuer donc avec ce tournoi destination. On se régale actuellement devant nos écrans.
Alors on en a parlé ces dernières semaines, mais ça veut dire qu'il y a quand même un calendrier de plus en plus démentiel aussi dans le rugby. Hein. Ça n'échappe pas à la règle, c'est le cas dans pas mal d'autres sports. On a vu ces dernières semaines en tennis beaucoup de joueurs commencer à râler, on l'a vu en football depuis des années. Enfin, je pense que le rugby, qui est quand même un sport très traumatisant, c'est quand même aussi, ça devrait être un point d'attention.
Oui, c'est un point d'attention, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de blessures. Et on voit bien que les équipes doivent vraiment avoir donc beaucoup de joueurs, faire tourner, ne pas faire systématiquement jouer tous les matchs. Mais c'est vrai que les internationaux sont à rude épreuve. Et c'est pour ça que les différents entraîneurs, que ce soit Fabien Galthié au niveau national, mais aussi les entraîneurs du top 14, veillent à ce que leurs joueurs ne jouent pas l'ensemble des matchs, mais jouent des parties de matchs. Et ils essayent aussi de travailler avec ce qu'on appelle les finishers ou les impact players, pour que finalement, eh bien, des joueurs puissent se reposer et puissent faire donc une mi-temps ou voire plus, mais ne font pas tous les matchs. C'est pour ça que c'est important qu'ils puissent tourner pour ne pas se blesser, puisque la saison est longue, puisque le top 14, c'est plus de 26 journées.
C'est ça, plus les phases finales ensuite, 26 journées de phase régulière. On va terminer cette page rugby avec un petit mot sur le rugby à 7 et l'étape de Coupe du Monde qui se déroulait au Cap ce week-end. Un bon résultat de l'équipe de France.
Oui, l'équipe de France qui donc sort d'un titre de champion olympique confirme, puisqu'ils ont battu les Fidjiens et les Néo-Zélandais, et ils perdent malheureusement en finale contre les Springboks. Les filles également, donc les féminines, terminent donc troisième. On voit bien que le rugby à 7 a franchi un cap, et c'est une très bonne chose, parce que finalement, eh bien, on se rend compte que l'on regarde du 7 ou du 15, eh bien, c'est un véritable spectacle, et c'est très très à l'honneur de tout ce qui est fait au niveau donc des écoles de rugby jusqu'aux différents championnats, qu'on parle des pôles espoirs, qu'on parle donc des joueurs du top 14. Il y a vraiment une qualité de la pratique du rugby qui augmente, et ça c'est très très bien, quel que soit le type de jeu. Et voilà, on peut se satisfaire de cette progression là parce que vraiment il y a de très très beaux matchs, et ce sont de très beaux spectacles à regarder.
Merci Jérôme Crapati. On va enchaîner avec le football. Gabriel Sec avec vous. Et la 14e journée de Ligue 1 avec un PSG qui marque le pas. Deuxième match nul consécutif contre Auxerre, avec un gardien auxerrois en état de grâce.
Alors effectivement, ouverture du championnat par le PSG donc sur la pelouse de la GIA. Donc qui se solde par un 0-0. Donc c'est pas pour rassurer le PSG avant son déplacement en Coupe d'Europe à Salzbourg. Alors comme vous l'avez dit, effectivement, Donovan Léon, le gardien de la GIA, a fait une très très grosse performance. Il a totalisé environ 11 arrêts. Il a une note de 10 sur l'équipe, ce qui arrivait très rarement en Ligue 1. Donc un très 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 gros match du gardien auxerrois.
On a derrière Marseille et Monaco qui en profitent, qui reviennent à 5 points par le biais de leur victoire sur pour Monaco sur Toulouse 2-0 et pour Marseille face à Saint-Etienne ce matin en clôture de cette 14e journée, 2-0 là aussi.
Alors tout à fait, effectivement, Monaco qui l'emporte 2-0 sur sa pelouse contre le Toulouse Football Club. Pas grand-chose à dire, hein, Monaco qui fait une très bonne saison tant au niveau du championnat qu'en Coupe d'Europe, hein, une équipe solide, une très grosse défense, très difficile à bouger et donc qui l'emporte sans trop de soucis contre le TFC. Et donc ce matin, un vieux classique de Ligue 1 avec une très grosse ambiance, avec un nombre incalculable de fumigènes craqués par les supporters stéphanois, mais qui n'auront pas suffi aux Stéphanois pour renverser une équipe de Marseille qui elle aussi était très costaud. Donc une victoire 2-0 sur Saint-Etienne à Geoffroy Guichard, donc avec un but magnifique de Rabiot qui commence à trouver ses repères et puis un but sur pénalty de Greenwood qui en est à son 10e but depuis le début de la saison, ce qui en fait un des meilleurs ratios sur 14 matchs. Je crois que c'est le premier ou le deuxième Marseillais à marquer autant de buts sur si peu de journées. Donc voilà, un très très bon match des Marseillais. On peut souligner ce matin aussi dans le derby breton la victoire du FC Nantes face au Stade Rennais.
Victoire importante pour les hommes d'Antoine Comboiré qui se sortent un tout petit peu de la zone rouge.
Voilà, qui sortent un petit peu de la nasse, hein, parce que clairement un Antoine Comboiré qui est un petit peu sur la sélecte, hein, après un début de saison pas terrible.
Oui, puisqu'on évoque déjà le nom de son remplaçant.
Oui, clairement. Bon, en même temps, c'est une méthode de la famille Kita. Ils ont tendance, dès que ça va pas au FC Nantes, à vouloir changer d'entraîneur. Hein. Donc, par contre, c'est inquiétant pour le Stade Rennais, hein, malgré le changement d'entraîneur et la venue de Sampaoli, qui s'est fait expulser en fin de match pour contestation. Alors, effectivement, ils ont fait une mi-temps à 10, mais malgré tout, c'est une équipe qui était dans les 5 premiers du championnat ces 4-5 dernières saisons, qui avait fait un beau parcours en Europa League, vraiment une équipe solide ces dernières années, qui là est en perte de repère complet, avec déjà un changement d'entraîneur. Donc ça va être quand même une saison un peu particulière pour eux.
Oui, puisqu'en 14 journées, hein, ils ont gagné que 4 fois et ils ont déjà perdu 8 fois, ce qui est assez inhabituel effectivement pour eux au vu de leur performance ces dernières années.
Ils sont 12e avec 14 points et 2 buts de retard au goal average. Après, on peut souligner aussi la victoire de Lens sur Montpellier. Donc, une victoire 2-0. Donc, pareil, un gros match du gardien Brice Samba. Et là aussi, une situation inquiétante, hein, pour le Montpellier Hero Sporting Football Club. Pardon.
Ouais, Montpellier qui a déjà 4 points de retard sur le 17e qui est
c'est
le Havre.
C'est ça, ils sont 18e avec 8 points. Ça sent une saison très très compliquée pour Montpellier. On en avait parlé en début d'année, à l'ouverture du championnat.
Malheureusement, ça se confirme.
Ça se confirme, mais il faut aussi souligner qu'ils sont interdits de recrutement. Donc ils ne pourront pas se renforcer cet hiver. Donc c'est mal embarqué. Alors je ne leur souhaite pas, hein, à nos voisins sudistes, hein, mais c'est mal embarqué pour eux cette année. Après, on peut souligner aussi la belle victoire de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du SCO d'Angers. Donc encore un gros match de Ryan Cherki, buteur puis passeur décisif. L'OL qui, mis à part un faux pas à domicile contre Marseille et un faux pas en Coupe d'Europe contre Beşiktaş, reste sur 17 rencontres sans défaite. Donc ça en fait quand même une équipe solide. Là aussi, je mets un bémol quand même, parce que c'est pareil, ils vont avoir une masse salariale encadrée. Donc ils vont devoir se délester certainement un petit peu cet hiver et faire quelques ventes, voir comment tout ça va se goupiller, si ça va pas les affaiblir. Donc affaire à suivre pour
Alors, il faut quand même voir au niveau de l'Olympique Lyonnais, puisque le propriétaire John Textor est aussi propriétaire de Botafogo, qui vient de gagner la Copa Libertadores, donc
et qui vient d'être champion du Brésil ce matin,
voilà, et qui exhibe à qui veut bien le voir un gros chèque de 23 millions de dollars. Donc peut-être qu'il va y avoir des transferts de fonds entre les deux clubs.
Peut-être maintenant il faut que tout ça soit validé par les services financiers
et la DNCG entre autres. On a aussi Nice qui a battu le Havre. Nice qui va un petit peu mieux, qui reprend un petit peu le fil de son championnat, mais qui reste assez irrégulier encore.
Tout à fait, donc Nice qui bat le Havre, hein. Le Havre qui n'est pas forcément une grosse équipe cette année, hein. C'est pareil, c'est un promu, donc pardon, c'est pas un promu, c'était monté l'année dernière, mais voilà, c'est une équipe qui est encore en construction, donc clairement, bon, c'est une victoire qui leur fait du bien, ça leur permet de se replacer un petit peu, ils se retrouvent à la 6e place. Et ça permet un petit peu de faire digérer la défaite en Coupe d'Europe 4-1 la semaine dernière contre les Glasgow Rangers. Donc oui, ça va un petit peu mieux, ils se rassurent un petit peu. Mais il y a encore du boulot pour cet effectif et pour l'entraîneur francaise.
Et puis, alors, il y a deux matchs dont on n'a pas parlé, hein, un match nul 0-0 entre Strasbourg et Reims. Et
effectivement, mais bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, deux effectifs. Alors, le stade de Reims, qui à domicile est quasiment intraitable, mais qui ne voyage pas forcément très bien. Et le RC Strasbourg, qui est une équipe moyenne. Hein, je pense que 14e à l'heure actuelle au classement, c'est un peu la place qui lui est réservé, parce que bon, ça montre pas grand chose depuis le début de saison, donc quelque part c'est un résultat normal.
C'est surtout, ils sont sur une dynamique très inquiétante, hein, sur les 5 derniers matchs, 4 défaites, un match nul, donc c'est la spirale n'est pas la bonne.
Tout à fait.
Et le dernier match dont on n'a pas encore parlé sur cette journée, c'est Lille qui a battu Brest 3-1, 2 buts de Jonathan David qui a pris la tête du classement des buteurs.
Tout à fait, et puis qui s'affirme de plus en plus comme un joueur très important de ce championnat. On rappelle quand même, c'est 100e et 101e but. Le LOSC quand même qui est sur un parcours européen qui est très costaud, intraitable à domicile, qui voyage bien aussi. Donc ouais, c'est clairement pour moi une des équipes qui peut aller titiller le PSG cette année. Donc pareil à faire à suivre aussi. Brest, effectivement, qui est très bon à domicile, mais qui a tendance à mal voyager. Donc là, ils en ont fait les frais avec une défaite 3-1 sur la pelouse du LOSC.
Et qui avait fait un mauvais début de championnat, les Brestois, et puis qui paye peut-être aussi un petit peu les exploits en Coupe d'Europe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'effectif forcément pour jouer sur les deux tableaux.
Clairement.
Et qu'on voit que le week-end, les joueurs ont un petit peu plus de mal que mercredi en Coupe d'Europe.
Tout à fait.
On se retrouve donc avec un classement où le PSG est en tête avec 34 points devant Marseille et Monaco à 29 points. Lille, qui est sur une phase, une bonne phase, est quatrième. À 26 points à quatrième. Et puis en bas de classement, alors le bas de classement pourrait commencer à la 12e place puisque Rennes, Nantes et Strasbourg ont 14 points, que derrière Angers et Saint-Etienne sont à 13 points, Le Havre à 12 points et Montpellier donc est déjà un peu décroché avec seulement 8 points. Ça commence à être compliqué pour les Montpelliérains déjà.
Clairement, et puis on parlait tout à l'heure en ouverture de cette 14e journée du quasi-exploit de la Auxerre qui a résisté au PSG. La Auxerre, donc promue, qui est actuellement 8e de ce championnat. Je ne sais pas si vous en rappelez, Olivier.
Avec 20 points.
Avec 20 points. On avait parlé en ouverture du championnat de Ligue 1 de cette année. On disait que régulièrement, chaque année, il y avait une équipe promue qui arrivait à tirer son épingle du jeu. Donc, on avait déjà mis une bille sur la GIA. Ils sont en train de confirmer. Ils font un très très bon championnat. Là, ils ont accroché le PSG. Ils se sont déplacés à Marseille où nous en ont planté 3. Donc voilà, une équipe qui est pas là pour faire de la figuration.
Comme le disait Giroud, l'essentiel va être de maintien. avec 20 points en 14 journées, le maintien n'est pas très loin d'être assuré.
Acté.
Dans un championnat à 18 clubs, ça va jouer autour de 35-36 points. Donc,
Le
reste, environ 15-16 points à prendre sur 20 journées. Donc, ils tiennent le bon bout.
Ils sont dans les clous.
Cette semaine va donc avoir lieu une semaine de Coupe d'Europe avec des matchs extrêmement importants pour le PSG qui se déplacera à Salzbourg, hein, le PSG qui n'a plus le droit à l'erreur en Ligue des Champions.
Clairement, hein, parce que le PSG là, donc, se déplace, donc, le PSG qu'il faut rappeler qui est 25e avec 4 points. On rappelle avec cette nouvelle formule de Coupe d'Europe que c'est les équipes classées de la première à la 8e place qui sont directement qualifiées pour les 8e et celles de la 9e à la 24e place qui participeront à un tour de barrage aller-retour. Et actuellement, le PSG est 25e. Donc clairement, il leur faut aller chercher cette victoire à Salzbourg s'ils veulent continuer d'espérer, sachant que dans la foulée, ils recevront Manchester City. Quand même costaud à manœuvrer.
Même si Manchester City va pas très bien.
Oui, mais bon, qui reste quand même un sacré client. Et ils se déplaceront à Stuttgart, qui est pas une grosse équipe, mais...
qui a un déplacement compliqué.
Voilà, on sait que les ambiances allemandes sont toujours très chaudes. Et ils donneront pas facilement leur peau.
Lille recevra cette semaine aussi un club autrichien avec le Sturm Graz. Monaco se déplacera à Arsenal. Ce sera un vrai test pour les Monégasques qui ont fait... qui ont montré de belles choses depuis le début de cette Ligue des Champions.
Septième de cette, au classement de cette Ligue des Champions.
Comme les trois autres clubs français à part le PSG, Lille, Monaco et Brest sont à 10 points.
C'est ça.
Et puis Brest, j'ai envie de dire le petit poussé brestois qui fait des exploits, qui recevra le PSV Eindhoven.
Tout à fait, et qui après se déplacera au Shakhtar Donetsk. et qui finira par recevoir le Real de Madrid, donc qui a quand même encore toutes ses chances, hein, parce que Brest est 11e avec 10 points, hein, comme vous l'avez dit. Donc je pense qu'avec une victoire sur le PSV, et puis derrière, ils peuvent aller chercher quelque chose au Shakhtar. Ce serait quand même assez rigolo de voir ces pirates de Brest se qualifier et de laisser le PSG au quai. Donc ce serait quand même assez rigolo. Donc surtout en tant que supporter marseillais.
C'est une histoire de point de vue, effectivement.
Voilà.
On va suivre tout ça donc cette semaine avec mercredi matin et jeudi matin pour nous ici en Calédonie, ces quatre rencontres pour cette sixième journée de Ligue des Champions dont on reparlera la semaine prochaine. Messieurs, on va enchaîner avec les faits marquants de la semaine sportive que je vous invite à commenter avec moi. Alors, on va commencer par du handball féminin et l'équipe de France qui pour l'instant fait un sans faute. Après les trois victoires dans le tour préliminaire, les joueuses de Sébastien Gardilou ont enchaîné cette semaine avec des victoires sur la Roumanie 30-25, le Monténégro 31-23 et ce week-end contre la Suède 31-27, la Suède qui est un gros morceau. Elles sont d'ores et déjà qualifiées pour les demi-finales et la première place du groupe se jouera contre la Hongrie demain matin à 4h. On rappelle qu'elles sont championnes du monde en titre et vice-championnes olympiques. Ce hand français, féminin ou masculin, alors plutôt féminin en ce moment parce que les garçons sont un peu plus dans le dur, fonctionne vraiment très très bien. Quelle est la recette de ce hand féminin finalement, Jérôme Crapaty, pour vous? Parce qu'ils sont très réguliers au plus haut niveau.
Oui, hein. Ils sont très réguliers au plus haut niveau. Je pense qu'il y a une vraie culture de la formation au niveau du handball, de façon générale. Il y a des équipes de France qui ont toujours brillé avec Constantini, Claude Onesta. Il y avait encore.
Il y avait Olivier Crumbles, qui était l'entraîneur des filles, et c'est désormais Sébastien Gardilou.
C'est ça. Il y avait toujours donc des bons entraîneurs charismatiques, mais aussi donc des très bons effectifs qui viennent, à mon avis, des différents clubs et la dimension du plan de formation en métropole avec la détection est quand même, à mon avis, de qualité. Et du coup, dans cette pyramide de la détection, eh bien, sortent donc des bons joueurs. Et puis, il y a une culture de la performance avec notamment des joueurs également étrangers qui viennent enrichir donc le championnat métropolitain. Et je trouve que ce soit les garçons ou les hommes, il y a toujours cette volonté de gagner, de performer avec, je le rappelle, des équipes qui ont été à la fois championnes olympiques, championnes du monde, championnes d'Europe, donc une vraie label qualité.
Une vraie culture de la gagne.
Voilà, une vraie culture de la gagne et surtout un bon esprit et du beau jeu parce qu'il faut quand même savoir qu'au niveau mondial, toute la partie de la Scandinavie, toute la partie donc de la Suède, Danemark,
ce sont des, la Norvège,
voilà. des bonnes équipes et la France leur tient tête et voilà, démontre encore beaucoup de qualité. Et même, il y a de bons joueurs qui également n'hésitent pas à se remettre en question. Et c'est une des forces également du handball, parce que dans le handball, on ne joue pas tout le temps. On joue parfois en attaque ou en défense. Et il y a cette vraie complémentarité que les entraîneurs arrivent à trouver. Et donc, ça se traduit par de belles victoires.
Bon, eh bien on va suivre les performances de nos handballeuses françaises d'ici la fin de la semaine prochaine et voir si le titre de championne d'Europe revient dans leur escarcelle. C'était le dernier Grand Prix aussi de Formule 1 ce week-end, avec pour seul suspense le titre constructeur, puisque le titre de pilote était joué depuis la semaine dernière avec Verstappen. Et c'est McLaren qui est de nouveau champion du monde 26 ans après. Lando Norris a tenu tête aux deux Ferrari qui le talonnaient et qu'il ne fallait absolument pas qu'il baisse pavillon, puisque s'il s'intercalait, une des deux Ferrari prenait la tête et faisait 1 et 3, Ferrari aurait été champion du monde. Mais Norris a tenu jusqu'au bout, tout seul, puisque Piastri a été éjecté dès le départ dans un accrochage avec Verstappen. Donc, grosse performance de McLaren, 26 ans après, ça fait... à la fois bizarre et plaisir de revoir ce nom de McLaren au plus haut de l'échiquier de la Formule 1. Gabriel Sec.
Moi, je trouve que c'est bien, ça permet de redistribuer un petit peu les cartes. Alors, moi, je suis pas forcément amateur, mais c'est vrai que, comme tout le monde, je suis un petit peu l'actualité sportive. Et c'est vrai qu'on avait tendance ces dernières années à revoir toujours les mêmes têtes d'affiche. Voilà, c'est bien aussi d'avoir un petit peu de renouvellement et voilà, de redistribuer encore une fois un petit peu les cartes.
Bon, et puis voilà, on va avoir un bal de changement sur l'échiquier de la Formule 1, puisque beaucoup de pilotes vont changer d'écurie, donc voilà, les cartes vont être un peu redistribuées pour 2025. Il y a un point important aussi, c'était le dernier Grand Prix de Lewis Hamilton avec Mercedes après 12 ans passés au sein de l'écurie allemande. On l'a vu extrêmement ému à la fin de ce Grand Prix. Voilà, c'est quand même une légende qui part de chez Mercedes pour aller chez Ferrari l'année prochaine. Donc là aussi un grand monsieur du sport de la Formule 1.
Du monde sportif, tout simplement. Moi, je dirais au-delà de ça, parce qu'il a inspiré, je pense, d'autres sportifs dans d'autres domaines. Et c'est là qu'on voit que c'est une légende. C'est quand on dépasse un petit peu les lignes de son sport et qu'on arrive à influencer d'autres sportifs ou d'autres personnes, que voilà, là, on acquiert ce statut de légende. Et pour moi, il l'a clairement. Quoi.
On l'oublie parfois, mais il est l'égal de Michael Schumacher en nombre de titres de champion du monde.
Et pourtant, on ne le cite pas autant, ouais. Effectivement. Ouais.
Ouais. Ce sont des grandes stars et surtout des sportifs haut niveau qui restent humble, et je trouve que la médiatisation de la Formule 1 ou des Grands Prix moto ou autre démontre bien qu'il y a une vraie volonté de suivre toutes ces compétitions et qu'il y a beaucoup de fans et ils sont très très soutenus, et ça c'est bien parce que ces coureurs ils le rendent bien de par leur implication et surtout la rigueur, parce que pour piloter des engins qui vont à ces vitesses là je pense qu'il faut avoir une sacrée maîtrise intérieure.
Et une condition physique hors norme. On a hâte de voir les premiers Grands Prix, les premiers tours de route 2025, puisque chez Ferrari, on aura quand même dans les baquets Charles Leclerc et Lewis Hamilton, donc potentiellement une équipe très très forte chez Ferrari l'année prochaine. On va enchaîner, messieurs, et changer totalement d'univers avec du biathlon en Finlande. Et les Français et les Françaises, c'est un peu comme au handball, là, qui continue de faire très très bonne figure. Et là aussi, on a une vraie école, une vraie institution qui est devenue le biathlon en France. Les hommes ont fait le doublé sur la Mastart ce week-end sur 15 km. Éric Perrault s'est imposé devant Quentin Fillon-Maillet. Et chez les femmes, c'est Julia Simon qui a terminé deuxième sur la Mastart 12,5 km derrière la Suédoise Elvira Auberg. Et vendredi, Emilien Jacquelin s'était imposé sur le sprint 10 km. Donc on voit que les Français, là aussi, font face à beaucoup de pays nordiques et aux Allemands, entre autres, mais qui sont, ils sont bien là, quoi. Qu'est-ce qui fait que le biathlon français est aussi présent ?
C'est vrai que c'est assez hallucinant, parce que, encore une fois, c'est un sport que je connais encore moins que la Formule 1, pour être honnête, mais je me souviens déjà, il y a quelques années, de l'implication des frères Fourcade sur ce sport et la marque, l'empreinte qu'ils ont laissée. Et effectivement, on sent que c'est devenu un sport sur lequel on performe en France. Alors je pense que ça rejoint un petit peu ce que disait mon collègue tout à l'heure par rapport au hand. Il doit y avoir au niveau de la fédération des formateurs ou une manière de parler le même langage, de préparer les compétitions. Qui fait que ces sportifs arrivent dans les meilleures conditions possibles sur ce type d'épreuve qui est encore une fois très très physique. On parlait de concentration avec la Formule 1, là c'est pareil, on laisse énormément de jus sur le parcours, et puis après il faut se poser, respirer, se calmer et décrocher la cible
et enchaîner les 5 cibles.
C'est énorme.
Ce qui est assez bluffant dans ce sport, c'est qu'on parle souvent, quelle que soit la discipline, de la pyramide qui est importante, et d'avoir une base de la pyramide chez les licenciés extrêmement étoffée pour pouvoir atteindre le plus haut niveau. Là, on parle d'un sport où il y a très très peu de licenciés en France quand même, Jérôme Crapaty.
Oui, alors peut-être pas beaucoup de licenciés, mais par contre beaucoup de capacités à s'entraîner pour alterner des capacités donc d'endurance, mais également des capacités de précision, puisque les tirs se font aussi bien couchés et debout, et il y a une vraie culture également, puisque ce sport-là est très développé en métropole, et c'est vrai que c'est très médiatisé, c'est assez impressionnant et spectaculaire, et moi je pense que ce sont des sports qu'il faut soutenir.
Bon, eh bien, on va enchaîner, messieurs, avec le dernier point de ce tour d'horizon sportif, avec le Vendée Globe. Donc, des skippers qui sont partis des Sables d'Olonne mi-novembre pour faire le tour du monde en solitaire sur des bateaux qui sont presque plus des bateaux, mais des avions de chasse, si j'ose dire. Et donc, ils ont franchi la semaine dernière le Cap de Bonne-Espérance et ils sont en train de tourner autour de l'Antarctique et ils vont arriver au sud de l'Australie, là, bientôt. Charles Dalin est en tête devant Sébastien Simon à 220 000 nautiques. Johan Richaume est troisième à 455 000 nautiques. Et Thomas Ruyant est à 545 000 nautiques. Ces quatre skippers sont en tête depuis un petit moment et alternent entre 1 et 4 selon les moments. C'est quand même un sport assez peu médiatisé finalement, à part le Vendée Globe et les grandes épreuves de voile, on en parle assez peu, mais c'est quand même un sport extrême finalement.
C'est des sportifs, mais c'est des aventuriers. On parlait de maîtrise de soi tout à l'heure, là c'est pareil. Je veux dire, faut vraiment faire preuve de maîtrise, d'avoir une confiance en soi. Enfin, moi, c'est des gens que j'admire tout simplement. Encore une fois, c'est pas forcément le sport que je regarde le plus, mais en tout cas, je suis vraiment admiratif du courage de ces gens-là qui prennent la mer, qui laissent tout de côté. Enfin, c'est juste énorme.
Jérôme Crapaty, tout seul en plein océan sur un bateau, voilà, sans assistance, sans rien, c'est quand même extraordinaire.
Ouais. C'est assez extraordinaire. 45 000 km, plus de 40 skippers, 11 nationalités. La première semaine au village, il y a eu un record avec 360 000 donc, visiteurs qui sont venus. Bref, une médiatisation quand même assez importante. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout le fait qu'ils vont passer des caps mythiques, le cap Bonne-Espérance, le cap Horn, et c'est cette prise de risque, cette capacité justement à savoir gérer le stress, la performance de la vitesse, le sommeil. Voilà, ce sont des vrais athlètes de haut niveau, et c'est très très intéressant parce que les téléspectateurs peuvent suivre donc la course sur le web, où voilà, il y a une vraie médiatisation qui a été développée, et je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, je crois que le recordman, c'est Michel Desjoyeaux, qui avait fait le tour en 74 jours. Et on n'imagine pas ce que c'est être 74 jours, plus de 2 mois et demi, tout seul. Ouais. Voilà, c'est
avec une moyenne de 4 heures de sommeil par nuit.
Oui, c'est dingue. Alors, vous l'avez dit, Olivier, c'est vrai que les machines sont de plus en plus performantes, mais l'exploit, il reste toujours le même.
Absolument.
Puisque, voilà, ils sont quand même face à eux-mêmes, au milieu de la mer, avec les éléments naturels qui parfois se déchaînent.
Et comme nous le disait Michel Quintin la semaine dernière, ils peuvent aussi avoir des avaries avec des obstacles qui sont en mer, des containers qui sont voilà, et donc se retrouver avec une avarie alors que tout allait très bien. Mais si on va enchaîner et terminer cette émission avec vos coups de cœur, Gabriel Sec, on va commencer par vous.
Alors moi, tout simplement, ce week-end, on organise au Parc Fayard le Sapin des Olympiens, donc avec l'association des supporters de l'OM en Nouvelle-Calédonie. C'est la deuxième année qu'on l'organise, donc on fait venir le Père Noël. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, n'hésitez pas à passer au Parc Fayard, nous faire un petit coucou, c'est mon petit coup de cœur.
Ok, et bien pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille, vous savez où ça se passe. Jérôme Crapaty.
Alors moi, je vais faire un clin d'œil au nouveau promu du top 14 qui est le RC Van. Et la particularité du RC Van, c'est lorsqu'ils jouent à la Rabine, donc dans leur stade, et bien lorsque le buteur donc est face au perche, on va dire, et bien voilà, et bien le public est complètement muet et respectueux. Je trouve que c'est une très belle image qui devrait donc se développer dans bien des stades.
Et surtout dans bien d'autres sports. Eh bien, c'est noté, messieurs. Merci pour vos coups de cœur et on se retrouve. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur cette émission et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.